Chapitre 20. La neige ne tombait plus, mais elle couvrait le sol d'une épaisse couche blanche, et l'élégant véhicule peinait dans les rues désertes. Une aube grisâtre semblait paralyser la ville, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Et personne, qu'il fût actionniste ou pro-Hardin, n'était encore assez courageux, en dépit des turbulences qui agitaient présentement la vie politique de la Fondation, pour circuler dans la ville. Cela déplaisait visiblement à Yuan Li, et il ne tarda pas à le faire savoir.
Ça va faire mauvais effet, Hardin. On va dire que vous avez pris la fuite.
Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Il faut que j'aille sur Anacréon. Et je veux pouvoir le faire tranquillement.
Mais ça suffit, Li. Hardin se renversa sur la banquette en frissonnant imperceptiblement. Il ne faisait pourtant pas froid dans le véhicule bien chauffé. Mais même à travers la vitre, ce paysage neigeux à perte de vue vous glaçait le cœur.
Un de ces jours, il faudra météoformer Terminus, dit-il d'un ton songeur.
C'est faisable. Il y a d'autres choses faisables, riposta Li, que j'aimerais voir accomplies d'abord. Si on commençait par météoformer Cermak, par exemple, une jolie petite cellule bien sèche, où il fait 25 degrés tout au long de l'année. Voilà ce qu'il lui faudrait.
Et puis, continue Hardin, il me faudrait une armée de gardes du corps, et pas seulement ces deux-là.
Du geste, il désigna les deux gorilles de Li, assis à l'avant à côté du chauffeur, les yeux braqués sur la chaussée déserte, leur désintégrateur atomique à portée de main.
On dirait que vous tenez vraiment à faire éclater la guerre civile.
Moi ? Pas besoin de moi pour cela, je vous assure.
Il se mit à compter ostensiblement sur ses doigts.
Primo Cermak.
Il fallait l'entendre hier, pendant la séance du Conseil, demander votre mise en accusation pour haute trahison.
C'était son droit, répondit Hardin sans se démonter. D'ailleurs, sa proposition a été repoussée par 206 voix contre 184.
Oui.
Une majorité de 22 voix, alors que nous avions compté sur un minimum de 60, ne dites pas le contraire. Vous savez que c'est vrai.
C'est pas si juste, en effet, admit Hardin.
Bon, secondo, après le vote, les 59 membres du parti actionniste se sont levés et sont sortis de la salle des séances en claquant la porte.
Hardin se tut. Ellie poursuivit.
Et Tertio, avant de partir, Cermak a hurlé que vous étiez un traître, que vous alliez sur Anacréon toucher le fruit de votre trahison, que la majorité du Conseil, en refusant de voter la mise en accusation, s'était rendue coupable de complicité de trahison, et que leur parti ne s'appelait pas le parti actionniste pour rien. Que pensez-vous de tout cela ?
Que ça va mal.
Et voilà maintenant que vous partez à l'aube comme un criminel. Vous devriez faire face, Hardin, et au besoin proclamer la loi martiale par l'espace.
La violence est le dernier refuge de l'incompétence. Allons donc.
Très bien. Nous verrons. Maintenant, Li, écoutez-moi bien. Il y a 30 ans, pour le 50e anniversaire du début de la Fondation, la crypte du temps s'est ouverte et nous avons entendu un enregistrement de Harry Seldon qui nous a quelque peu éclairci les idées.
Je m'en souviens, dit Li, perdu dans ses souvenirs, un demi-sourire aux lèvres. C'est le jour où nous avons pris le pouvoir.
Parfaitement. C'était la première crise que nous affrontions. Voici que se présente la deuxième. Et dans 3 semaines, nous allons célébrer le 80e anniversaire du commencement de la Fondation. Cette coïncidence ne vous semble-t-elle pas frappante?
Vous voulez dire qu'il va revenir?
Laissez-moi finir. Seldon n'a jamais dit qu'il allait revenir, bien entendu. Mais ça concorde tout à fait avec son plan d'ensemble. Il a toujours fait de son mieux pour que nous ne sachions rien. Nous n'avons aucun moyen de savoir si le chronordinateur est programmé pour déclencher d'autres ouvertures de la crypte du temps, à moins de démonter la crypte. Et il y a fort à parier qu'un mécanisme d'autodestruction se déclenchera à la moindre tentative de ce genre. À chaque anniversaire de la Fondation, j'y suis allé, à tout hasard. Mais Seldon n'a jamais fait une nouvelle apparition. Seulement cette fois, nous traversons encore une crise, alors que nous n'en avions pas eu entre-temps.
Alors c'est qu'il va venir.
Peut-être. Je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, voilà ce que vous allez faire. Cet après-midi, à la séance du conseil, quand vous aurez dévoilé mon départ pour Anacréon, vous annoncerez en outre officiellement que le 14 mars prochain, nous entendrons un nouvel enregistrement laissé par Harry Seldon et contenant un message de la plus haute importance, se rapportant à la crise qui aura été victorieusement résolue. Et surtout, prenez garde, Lee, de ne rien ajouter, quelles que soient les questions dont on vous assaille.
Lee le considérait avec des yeux ronds.
Et ils vont me croire ?
Peu importe. Cela les embarrassera, et je n'en demande pas davantage. Ils se demanderont si c'est vrai ou, dans le cas contraire, quel était mon propos en lançant cette nouvelle. Et ils décideront de ne rien faire avant le 14 mars. Je serai de retour bien avant cette date.
Lee n'avait pas l'air convaincu.
Mais dire que la crise sera victorieusement résolue, c'est du bluff.
Oui, mais un bluff qui les démontra complètement.
Ah, nous voici arrivés au spatioport. On apercevait dans le petit jour la masse sombre du vaisseau prêt à décoller. Hardin parcourut à grandes enjambées hésitantes la distance enneigée qui le séparait encore de l'appareil et sur le seuil du sas déjà ouvert, se retourna vers Lee en lui tendant les bras.
Au revoir, Lee. Je suis désolé de vous abandonner comme ça en plein milieu de la bataille. Mais vous êtes le seul à qui je puisse me fier. Soyez prudent. Attention aux balles perdues.
Ne vous inquiétez pas. J'ai la peau dure. Je suivrai vos instructions.
Il recula et le sas se referma.